Il est tout juste 6h à Paris, 4h en temps universel et 9h30 à New Delhi. L'actualité internationale, c'est avec Pierre Boudiaz. Bonjour Pierre.
Bonjour Edouard, bonjour à toutes et à tous.
À la une de votre journal, des visas suspendus, une frontière fermée et des diplomates expulsés.
Brusque montée des tensions entre Inde et Pakistan après l'attaque meurtrière mardi au Cachemire. La ligne dure adoptée par New Delhi divise les Indiens, vous l'entendrez. Donald Trump nie tout favoritisme en faveur de la Russie. Le président américain réaffirme son engagement à arrêter la guerre au bénéfice des soldats des deux camps. Sur les réseaux sociaux, il enjoint Vladimir Poutine à cesser ses bombardements sur l'Ukraine. Nouvelle sortie polémique du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau dénonce un ensauvagement de la société après la mort d'une lycéenne poignardée par un camarade hier. Instrumentalisation indécente, lui répond la maire de la ville de Nantes où a eu lieu le drame. Et puis il tue chaque année plus de 600 000 personnes dans le monde. Le paludisme que la communauté mondiale a promis d'éradiquer d'ici 2030 alors que ce 25 avril marque la journée internationale de lutte contre la maladie. Retour en fin de journal sur des efforts contrariés. Les citoyens pakistanais ne sont plus les bienvenus en Inde. Le gouvernement indien suspend leur visa et leur donne quelques jours pour quitter le pays. Une partie des mesures décidées par New Delhi après l'attentat sanglant qui a fait 26 morts dans le Cachemire. C'était mardi. Les autorités accusent Islamabad de soutenir les terroristes, ferme sa frontière avec son voisin et suspend un important accord de partage de l'eau. Une décision qui marque un tournant dans les relations entre les deux puissances nucléaires et qui divise les Indiens à New Delhi. Correspondance de Léa Ojal.
Le Haut Commissariat pakistanais en Inde, seule mission diplomatique d'Islamabad dans le pays, est totalement barricadé. Le lieu est surprotégé. À quelques pas de là, Jaya scrute les dernières actualités sur son téléphone.
Selon moi, forcer tous les Pakistanais à quitter l'Inde, ce n'est pas une bonne idée. Mais d'un autre côté, pour la sécurité nationale, c'est une bonne chose car on ne peut pas enquêter sur tous les Pakistanais. C'est mieux de les informer dès maintenant de quitter l'Inde. Mais vous savez, répondre par la terreur au sang, ça n'a jamais marché.
Pour Jagriti, il s'agit avant tout d'une forte décision politique du Premier ministre indien Narendra Modi.
Je pense personnellement que tous les Pakistanais ne sont pas des terroristes. Nous sommes des êtres humains. Mais je pense que si le Premier ministre Modi prend des mesures importantes, c'est dans le but d'en finir, une bonne fois pour toutes, avec le terrorisme.
Selon un communiqué de presse transmis par le Haut Commissariat pakistanais, Islamabad reste engagé en faveur de la paix, mais n'autorisera jamais quiconque à transgresser sa souveraineté et sa sécurité. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Et le Pakistan annonce prendre des mesures de réciprocité vis-à-vis de l'Inde, expulsion de diplomates, suspension des visas délivrés aux Indiens et fermeture de son espace aérien aux compagnies indiennes ont été annoncées. Les États-Unis, par la voix du porte-parole du département d'État, ont rappelé que Washington se tenait aux côtés de l'Inde. La capitale américaine qui a reçu hier la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'Ukraine au centre des préoccupations après de nouveaux bombardements qui ont fait 12 morts et des dizaines de blessés à Kiev hier. Vladimir a réagi sur les réseaux sociaux le président américain et après avoir accusé Volodymyr Zelensky de faire obstacle à un accord de paix en refusant de reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée, Donald Trump a répété qu'il était engagé pour la paix. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Donald Trump n'est pas content de voir que les combats continuent en Ukraine. Il l'a fait savoir à Vladimir Poutine avec un peu moins de virulence qu'à Volodymyr Zelensky, mais en recevant le Premier ministre norvégien, le président américain l'assure, il n'a pas choisi son camp.
Je ne fais allégeance à personne. Mon but est de sauver des vies. Je veux sauver des vies, principalement des jeunes, des soldats. C'est la guerre. C'est horrible. C'est un massacre. 5000 soldats par semaine, en moyenne, et nous voulons arrêter ça.
Et le président de préciser que des concessions russes dans la discussion consistent à accepter de ne pas prendre tout le pays, des concessions limitées donc, à se demander si Vladimir Poutine veut vraiment l'arrêt des combats. La question est d'ailleurs posée au secrétaire général de l'OTAN en visite à la Maison-Blanche et Mark Rutte, ancien premier ministre néerlandais, attendu concret de la part du président russe.
J'ai travaillé avec lui pendant 4 ans, entre 2010 et 2014, et j'ai arrêté d'essayer de lire dans ses pensées. On verra, mais il y a quelque chose sur la table, et les Ukrainiens discutent sérieusement. Je pense que la balle est dans le camp des Russes maintenant.
En attendant, les combats entre les deux camps continuent sur le terrain, et les missiles russes continuent à tomber sur les villes ukrainiennes. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
À noter que Volodymyr Zelensky a lui écourté un déplacement en Afrique du Sud hier en raison des frappes russes. Il avait auparavant rencontré son homologue Cyril Ramaphosa. Dans une interview à la télévision américaine, le ministre russe des Affaires étrangères assure que Moscou est prêt à conclure un accord. Sergueï Lavrov estime que plusieurs signes pointent dans la bonne direction sans donner plus de précision. Des discussions, il y en a également beaucoup autour des droits de douane voulus par Donald Trump après le Vietnam qui a annoncé hier avoir entamé des pourparlers. La Corée du Sud assure avoir proposé un accord global à Washington pour éviter la mesure. Très dépendante des exportations vers les États-Unis, la Corée du Sud est sous la menace de taxes à hauteur de 25%. RFI, il est 5h06 à Porto Novo, au Bénin, après l'attaque terroriste qui a fait 54 morts dans le nord du pays. La semaine dernière, la polémique enfle à chaque attaque armée au nord. Le gouvernement essuie des critiques sur l'absence de communication officielle. Les incidents de Koudou et du point triple survenus le 17 avril n'échappent pas à la règle, malgré la déclaration hier ce mercredi, du porte-parole du gouvernement, reconnaissant un bilan beaucoup plus lourd que le premier fourni. Déclaration incomplète et tardive pour certains. Toutefois, la condamnation des attaques meurtrières est unanime. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Les Béninois, toutes régions, tous bords politiques et toutes religions confondues, ont condamné le carnage du jeudi 17 avril au point triple et à Koudou. L'opinion publique est choquée et révoltée, mais s'en prend tout de même au gouvernement pour son silence des premiers jours et sur le bilan donné en deux temps et à quelques jours d'intervalle. Beaucoup le déplorent et l'assimilent à un maquillage de chiffres. D'autres se demandent pourquoi, une semaine après, Patrice Talon n'a pas décrété un deuil national et mis les drapeaux en Berne. Mercredi, Wilfried Mbedi présentait aux familles éplorées les condoléances du gouvernement. Chaque famille endeuillée devrait recevoir un courrier de compassion et de soutien du ministre de la Défense. Ça a été le cas lors des attaques du 8 janvier. En dehors des appels à l'union sacrée et au patriotisme, signalons cette recommandation du parti d'opposition Les Démocrates. La formation demande au gouvernement d'engager des concertations urgentes et sincères avec les pays voisins. Avant lui, Wilfried Mbedi reconnaissait que cette coopération sous-régionale était impérative pour mener une riposte plus efficace. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
L'Espagne annule un contrat d'armement passé avec une entreprise israélienne, un accord de plus de 6 millions d'euros pour fournir des munitions à la Guardia Civile espagnole, auquel le chef du gouvernement Pedro Sanchez a décidé de renoncer en raison de la situation dans la bande de Gaza. Madrid annonce par ailleurs qu'elle s'abstiendra désormais de conclure des accords d'armement avec les compagnies israéliennes. Israël qui condamne fermement cette décision. Le choc en France après qu'un lycéen a agressé au couteau plusieurs de ses camarades dans un établissement catholique de Nantes, dans l'ouest du pays. Une jeune fille est morte et trois autres élèves sont blessés. L'auteur a été interpellé et placé en hôpital psychiatrique. Présentant un profil dépressif, il avait envoyé avant son acte un manifeste confus à l'ensemble des élèves et du personnel de son lycée. Plusieurs membres du gouvernement se sont rendus dans la ville de l'ouest de la France, dont le ministre de l'Intérieur, le très droitier Bruno Retailleau, qui appelle à une reprise en main de la société française.
Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie. C'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Cette violence, il faut la dénoncer. Et au-delà des mesures qui peuvent être prises, et qu'ils seront d'ailleurs, il y a aussi une société à reconstruire, des hiérarchies à refaire, une autorité à restaurer.
Et ces propos de Bruno Retailleau ont ulcéré la maire de Nantes, Johanna Roland. Elle dénonçait une instrumentalisation politique de ce drame.
Ce soir, je ne ferai pas de politique. Je suis la maire de cette ville. Cette ville, elle est endeuillée. Je crois que le moment n'est pas à la politique. Et je le dis parce que j'ai vu des responsables nationaux qui ont utilisé, qui ont instrumentalisé déjà. Alors oui, il y a des questions à poser. J'en pose une. La santé mentale de la jeunesse de ce pays. Ça fait partie des sujets. Posons les sujets de fond, mais la politique, c'est pas ce soir.
Et le président français Emmanuel Macron a lui salué le courage des professeurs qui ont maîtrisé le jeune homme. Le premier ministre François Bayrou a de son côté estimé que l'installation de portiques à l'entrée des établissements scolaires était une piste pour éviter de nouvelles attaques au couteau dans les écoles. RFI, il est midi 9, presque 10 à Shanghai, la ville chinoise où le plus grand salon automobile du monde s'est ouvert mercredi. Après les taxes douanières annoncées par Donald Trump, les marques chinoises ont déjà anticipé leur repositionnement et la concurrence que se livrent les constructeurs automobiles n'a jamais été aussi forte, Anne Verdaguer.
Trumpshi, Xpeng, Aito, Aima, Rising, leurs noms ne vous disent probablement rien, mais il est aujourd'hui impossible de les ignorer. Le marché automobile chinois compte désormais une centaine de marques qui affichent leurs ambitions au grand jour, conquérir de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Car si pendant longtemps l'industrie chinoise a produit uniquement pour le marché domestique, elle se tourne de plus en plus vers les marchés émergents et ils sont nombreux, notamment dans la zone Asie-Pacifique, Indonésie, Philippines, Vietnam, où les ventes de voitures chinoises explosent. Même chose en Amérique latine. Les taxes douanières américaines vont certainement accentuer cette mutation du marché. Et l'Afrique n'est pas oubliée dans cette conquête. Certains pays comme l'Éthiopie, le Maroc ou le Kenya mettent en place des politiques pro-véhicules électriques et les Chinois sont au rendez-vous. Mais la concurrence acharnée entre les constructeurs automobiles en Chine fait déjà des victimes. Certaines start-up comme HiFi ont dû jeter l'éponge, entraînées dans une brutale guerre des prix et une course à la technologie que tous n'arrivent pas à suivre.
Anne Verdaguer. Et puis nous sommes le 25 avril, journée internationale de lutte contre le paludisme. Plus de 263 millions de personnes ont contracté la maladie en 2023, dernière année pour laquelle on dispose de chiffres. Près de 600 000 en sont morts. La communauté internationale s'était pourtant engagée à éliminer le paludisme d'ici 2030. On sait déjà que ce ne sera pas le cas, et encore moins depuis que Donald Trump a sabré dans les dépenses d'aide internationale à Genève. Les précisions de Jérémy Lanche.
En 25 ans, les investissements dans la lutte contre le paludisme ont permis d'éviter 2 milliards d'infections et 13 millions de morts, surtout en Afrique. C'est bien, mais pas suffisant, explique Philippe Duneton. C'est le patron d'United, l'organisation chargée de faciliter l'accès au traitement contre le VIH, la tuberculose et donc contre le paludisme.
Il y a une menace majeure, c'est le problème de la résistance. La résistance des moustiques aux insecticides et la résistance du parasite aux médicaments. Dans ces deux cas, il est absolument indispensable d'avoir de l'innovation.
Et l'innovation, il y en a eu ces dernières années. On pense aux nouvelles moustiquaires imprégnées avec deux insecticides au lieu d'un, à un deuxième vaccin antipaludique et même aux recherches pour rendre le sang humain toxique pour les moustiques. Tout ça n'est malheureusement pas possible avec le gel des financements imposés par Donald Trump. Washington a bien annoncé des exemptions pour la lutte contre le paludisme, mais sans vraiment rassurer les acteurs sur le terrain.
Effectivement, ça a déjà entraîné des conséquences, des campagnes de moustiquaires dans tous les pays du Sahel, des risques de pénurie, des retards en tout cas.
Et le temps presse, beaucoup de pays parmi les plus touchés par le paludisme vont entrer dans la saison des pluies. D'après le consortium de chercheurs du Malaria Atlas Project, une année de gel complet des financements américains engendrerait 15 millions de cas de paludisme en plus pour 107 000 décès supplémentaires. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Merci d'écouter RFI, nous sommes donc le vendredi 25 avril.
RFI, toute l'actualité, Pierre Boudias.
Et il est 4h13 en temps universel. La guerre en Ukraine continue d'inquiéter dans les pays baltes face aux tensions en Europe de l'Est. La Lituanie se prépare au pire. Le maire de Vilnius présente un plan pour répondre à une éventuelle catastrophe nucléaire. Nous serons sur place dans un instant. Photographie au programme avec la 15e édition du Festival de la Jeune Photographie. Circulation parmi les exposants, Wendy Zaibo qui interroge le lien entre trade transatlantique et architecture. Elle sera notre invitée dans un peu moins de 5 minutes. Et puis on parlera complexe physique avec Caroline Paré avant de nous quitter comme tous les jours en musique. Vous avez le programme, vous êtes sur la Radio du Monde. On commence d'abord aux États-Unis où l'administration Trump poursuit sa politique d'expulsion à grande échelle. Des centaines de migrants accusés d'être membres de gangs ont ainsi été envoyés de manière expéditive dans une prison géante au Salvador. Partout dans le pays, les services de contrôle de l'immigration procèdent à des arrestations de migrants illégaux. D'autres voient leur statut de résident révoqué brutalement, à tel point qu'un climat de peur règne au sein de la communauté latino, particulièrement au Texas, où elle est très nombreuse. Reportage à Houston de Nathan.
Devant l'université de Houston-Denton, nous rencontrons Gladys, 21 ans, dont 20 ans passés aux États-Unis, mais elle n'a pas encore la nationalité puisqu'elle est née au Guatemala.
J'ai peur pour tous les sans-papiers. Ils vivent dans la peur. Les gens n'osent plus sortir dans la rue. Quand on frappe à la porte, ils n'osent plus ouvrir, de peur que ce soit la police de l'immigration. J'ai vu des gens emmener leur passeport ou la monnaie de leur pays d'origine sur eux au cas où ils se feraient expulser.
C'est que les gens planifient leur vie quotidienne comme s'ils pouvaient être expulsés à tout moment.
Oui, à tout moment, c'est vraiment terrifiant.
Dans ce climat, on est surpris de la décontraction apparente de Martine. Je ne parle pas espagnol, lui parle très bien anglais, mais avec l'aide des mains, on arrive à se comprendre. 32 ans qu'il vend ses fruits et ses légumes sur ce marché de Houston, mais il n'a ni la nationalité américaine, ni permis de résidence.
Non, pas de carte verte, je suis mexicain, il n'y a pas de problème. Ça fait 32 ans que je suis ici et je n'ai jamais eu de problème avec les services de l'immigration.
Sur le parking du marché, Maria remplit son coffre. Elle a 3 enfants, 3 garçons. Eux ont la nationalité américaine, pas elle. Alors le simple fait de sortir faire des courses est une source d'angoisse.
Yes, very afraid. Because you never know.
J'ai très peur, on ne sait jamais ce qui peut se passer en cas de contrôle routier, c'est très effrayant. Imaginez que je puisse être détenue alors que mes enfants sont à l'école, c'est... Le beau-père de mon frère a été arrêté la semaine dernière, avec d'autres membres de sa famille, et on ne sait rien. On ne peut même pas leur rendre visite. Ils sont seuls et personne ne sait ce qui va leur arriver.
Les papiers de Gladys sont en règle, alors elle joue parfois les éclaireurs.
J'ai une amie mexicaine qui m'a appelé un jour pour me demander d'aller voir si Ice était près d'un magasin. Je suis allée voir et c'était vrai, il y avait 4 voitures des services de l'immigration. Les gens couraient de peur d'être arrêtés et expulsés. J'ai prévenu mon amie et comme son appartement se trouve juste derrière ce magasin, elle n'a pas osé sortir de la journée. Elle n'est même pas allée travailler ce jour-là.
Nathanaël Vitran, Houston, RFI.
Un reportage à retrouver bien sûr en intégralité sur RFI.fr. Il est 7h17 à Vilnius. La capitale lituanienne qui se prépare au pire. Tension avec la Russie, réchauffement climatique. Le maire de la ville de 600 000 habitants a présenté un plan pour faire face à de multiples catastrophes. On vous retrouve sur place, Marielle Vituro. Bonjour.
Bonjour.
Résultat, Vilnius pourrait être évacué en espace de 2 jours. Alors comment cela fonctionnerait-il ?
Eh bien, tout commencerait soit par les sirènes qui retentissent, soit par la réception d'un SMS. Les routes d'évacuation de Vilnius vont toutes vers l'ouest, le nord ou le sud. Vilnius est à seulement 30 km de la frontière biélorusse, c'est-à-dire à l'est donc. La municipalité organiserait des transports pour pouvoir évacuer les gens qui le souhaitent. Dans chaque quartier, les points de rassemblement seraient les écoles ou les jardins d'enfants. Depuis quelque temps d'ailleurs, on voit sur ces bâtiments des autocollants qui indiquent qu'il s'agit d'abris pour la population. Les municipalités autour de Vilnius ont passé des accords avec la capitale pour accueillir les réfugiés en cas de besoin. Quand j'étais en reportage à Outena, à 100 km au nord de Vilnius, on m'a confirmé cela.
Ah mais ce plan a été accueilli, Marielle, avec une certaine ironie par les habitants de Vilnius, car la ville est connue dans tout le pays pour ses embouteillages.
En effet, beaucoup de personnes s'interrogent sur la faisabilité d'une telle évacuation. À la fin de la journée de travail, certains axes sont complètement congestionnés dans Vilnius. Encore tout récemment, Vilnius a circulé au ralenti quand il s'agissait de quitter la ville pour retrouver sa famille à l'occasion de Pâques. C'était presque un exercice grandeur nature car les routes empruntées seraient les mêmes en cas d'évacuation. La mairie est consciente de cela, elle a lancé un appel à l'État pour investir, pour fluidifier la circulation à des carrefours stratégiques, élargir certaines voies ou reconstruire des ponts.
Alors des défis, il y en a, on vous entend, mais pour la protection des civils, les municipalités jouent un rôle primordial.
Tout à fait, c'est l'échelon numéro 1 de la protection des civils. Ce sont les villes qui doivent assurer la possibilité de s'abriter, assurer la distribution de nourriture. Le ministère de l'Intérieur a alloué 12 millions d'euros en début d'année aux villes pour qu'elles aménagent des abris. Néanmoins, les 3 premiers jours, pendant 72 heures, les habitants doivent être capables de prendre soin d'eux-mêmes en ayant de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Ensuite seulement, les municipalités et l'État prendront le relais. La préparation des habitants s'accélère. Par exemple, les élèves qui sont en classe de 3e doivent, depuis cette année scolaire, suivre une formation obligatoire de 3 jours pour apprendre quelques gestes de secours, à faire un feu ou alors à s'orienter en forêt.
Vilnius face aux crises, c'était avec vous Marielle Vituro. Merci Marielle. Allez, un peu de culture maintenant à 4h20 en temps universel que révèlent les habitats vernaculaires de nos sociétés à l'occasion de la 15e édition du Festival de la Jeune Photographie Circulation qui se tient au 104 à Paris. Nous avons rencontré Wendy Zaibo avec son projet Maçonne. Elle explore ces architectures ancrées dans l'histoire de la traite transatlantique entre réalisme mystique et mémoire collective, car à travers l'histoire, les populations afro-descendantes ont façonné des habitats qui témoignent de leur savoir-faire, mais aussi de leur héritage. Wendy Zaibo est au micro de Nour Marzougui.
Bonjour Wendy.
Bonjour Nour.
3 ans, c'est le temps qu'il vous a fallu pour réaliser ce projet que vous avez choisi d'appeler Maçon, ce qui signifie en créole guadeloupéen les murs. Par le prisme de la photographie et du montage, vous mettez en relation différents types d'habitats vernaculaires dans l'Atlantique noir, plus spécifiquement au Brésil, aux États-Unis, en Guadeloupe et en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi ces 4 territoires en particulier ?
J'ai commencé en fait en m'intéressant à un des habitats traditionnels de la Guadeloupe, c'est le territoire où j'ai grandi. Et en fait, petit à petit, j'ai eu envie de le mettre en conversation avec les territoires qui m'ont façonné, qui ont façonné mon parcours.
Ce qui est étonnant, c'est que des milliers de kilomètres séparent chacun de ces territoires. À quel moment l'histoire et les savoir-faire se croisent pour créer des habitats communs ?
Évidemment, la question coloniale a un impact sur cette question de l'architecture dans ces territoires. Il y avait des savoir-faire ancestraux qui existaient, qui, de par l'histoire, ont rencontré d'autres types de savoir-faire. Si on prend le cas des cases, notamment en Guadeloupe, à la base, les cases, c'est un héritage que l'on doit aux Amérindiens, donc aux premières populations de ces espaces caribéens, qui, eux, ont connu le premier génocide. Et ensuite, les cases ont été reprises par les populations européennes. Et ensuite, quand la traite a commencé, les populations européennes se sont orientées vers des cases utilisant des matériaux plus durs. Et les populations afro-diasporiques ont récupéré ces habitats.
Oui, et donc à travers ces différentes formes d'habitats, c'est aussi toute une histoire des migrations et des colonisations. Même si ces habitats restent souvent précaires, ils portent en fin de compte une symbolique assez forte. C'est pour ça que mettre en lumière cet héritage était important pour vous ?
Complètement. J'ai eu la chance, moi, de par mon parcours, d'évoluer, on va dire, académiquement dans plusieurs territoires et de me rendre compte, justement, qu'en fonction de l'endroit où je me trouvais sur la planète, on ne me racontait pas forcément la même histoire sur celles et ceux qui me ressemblent. Et donc, oui, clairement, il y avait une volonté aussi de dire cette histoire-là, elle est importante. Nos histoires sont importantes parce qu'elles permettent aussi de se développer différemment, de prendre conscience de sa place dans le monde aussi différemment, de prendre la place dans son territoire différemment. Donc, c'est comment je me rapproprie mon histoire, l'histoire de mes parents, de permettre aussi de se voir en fait dans les histoires que l'on se raconte.
Comme vous le soulignez, tout dépend de qui raconte l'histoire. Ce qui me fait un peu penser aux tiny houses, ces petites maisons mobiles devenues symboles d'un mode de vie alternatif et écologique assez tendance. Pourtant, ce type d'habitat existait déjà dans certaines communautés afrodescendantes, comme en témoignent vos photos. Quand on en efface l'origine, n'est-ce pas une forme d'appropriation ?
La culture, c'est politique. Donc forcément, la manière dont on pense cette politique culturelle, elle sert des idéologies, elle sert des manières de voir le monde. Et c'est clair que si on continue aujourd'hui dans une logique très capitaliste, très coloniale, très impérialiste, oui, il y a une volonté de vouloir venir imposer une forme de culture et de peut-être vouloir venir en effacer d'autres. Donc c'est aussi comment on sonne l'alarme en disant la pluralité, la multiplicité des savoirs, la multiplicité des cultures, c'est important, c'est une richesse et ce qui permet aussi de venir proposer des solutions alternatives au chaos qu'on est peut-être en train de traverser en ce moment.
Wendy Zaibo était au micro de Nour Marzougui. La 15e édition du Festival de la Jeune Photographie Circulation, c'est au 104 à Paris jusqu'au 1er juin. 4h24, en temps universel, l'heure de retrouver le Conseil Santé avec Caroline Paris.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Et on parle aujourd'hui des complexes physiques avec la psychologue et psychothérapeute Coro Camara.
Coro Camara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute en Seine-Saint-Denis.
Oui.
Pourquoi certaines personnes sont-elles particulièrement vulnérables au jugement des autres, ce qui peut contribuer à faire naître des complexes assez handicapants ?
En fait, tout dépend de la personnalité de l'individu. Donc, il y a des personnalités qui vont être plus susceptibles que d'autres. Un jugement, ça peut vraiment atténuer et apporter en fait un mal-être à cette personne.
Est-ce que cette sensibilité aux critiques, elle est plus importante à l'adolescence ?
Oui, même, je dirais même à l'enfance. parce que tout vient en fait de l'enfance, l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on grandit, donc ça peut venir beaucoup plus tôt.
Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut à chaque fois faire attention à ce qu'on dit à un enfant, ou finalement, au bout du compte, l'enfant peut quand même entendre certains mots, certaines choses?
Non, il faut faire attention. C'est très important parce qu'après, l'enfant peut grandir avec cette étiquette ou ce préjugé ou cette critique. Et par la suite, après, ça peut s'amplifier ou, ça dépend encore de la personnalité de la personne, faire un travail sur soi.
Y compris avec les petits surnoms, on veut être gentil, on donne un petit surnom et des fois, ça peut être très mal perçu.
Non, les petits surnoms, après, c'est mignon comme tout. Donc ça, il n'y a pas de... Si c'est Dumbo avec les grandes oreilles, là par contre oui. Là par contre c'est méchant. Et ça peut faire du mal après pour la suite à l'enfant, mais si c'est mignon, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup Koro Camara. Aujourd'hui dans Priorité Santé, émission Questions de femmes, on va parler de l'arthrose, ces douleurs articulaires avec bien sûr toutes les questions des auditrices et un spécialiste à votre écoute à 9h10, 1h10, temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et à tout à l'heure Caroline Paré. Allez, on va se quitter en musique et en reggae avec le groupe américain Grundation et leur titre Spirit in the Material World.
I have no faith in constitution.
No faith, no faith at all.
There is no bloody revolution.
No bloody revolution.
We are spirits in the material world. We are spirits in the material world. We are spirits in the material world. We are spirits in the material. As our so-called leaders speak. Try to jail us.
Oh, jail them up.
Look how they subjugate the meek.
Meek and wait and murmur not.
But it will be a rhetoric of failure.
Spirit in the Material World à retrouver bien sûr sur la playlist RFI, sur RFI Musique. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Arthur Geoffroy qui était à la réalisation. Léa Boutin-Rivière était à la rédaction en chef. Restez avec nous dans un peu plus d'une minute. Le retour de l'actualité africaine. Madagascar à la une.
Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Donald Trump a multiplié les annonces pour recréer un paradis énergétique américain basé sur les énergies fossiles. Mais est-ce réaliste ? Non, répond notre invité Philippe Copinchy, car aux États-Unis, ce ne sont pas les politiques publiques qui décident, mais la loi du marché.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI. Sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
C'est l'album du retour aux sources pour Laura Prince. Le Togo de ses ancêtres, son héritage historique et musical, son titre Adjoko. La chanteuse de jazz s'y entoure d'un pianiste ghanéen et d'un percussionniste du Bénin. Elle sera avec nous en live avec le virtuose de la guitare Abdoulaye Kouyaté.
Sur le Pont des Arts avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.